Guillaume Joly.
Bonjour, le revêtement est un facteur parmi d'autres qui peut être potentiellement responsable d'une série d'accidents dans le tunnel de Serrières. L'Office fédéral des routes va le remplacer dès ce soir par mesure de précaution. Yvan Bourgnon sur le banc des accusés à Paris, le navigateur chaudefonnier est accusé d'avoir inventé certains de ses récits exploratoires. Accusation portée par le réalisateur Pierre Guyot. Il est de retour en deuxième ligue de hockey sur glace sans faire trop de bruit. Le HC Neuchâtel Young Sprinters a repris son nom et ses couleurs depuis sa promotion. Le club veut s'installer durablement dans le championnat, voire plus haut si possible. Le ciel restera dégagé cet après-midi sur la région, même si quelques bancs nuageux pourraient faire leur apparition au fil des heures. Les conditions resteront très agréables, les maximales oscilleront entre 17 et 21 degrés. La prudence avant tout, c'est ce qui motive l'Office fédéral des routes à changer l'enrobé au niveau du tunnel de Serrières direction Bienne. Le chantier se tient dès ce soir 20h et jusqu'à demain à 18h. Il ne sera plus possible de circuler sur l'autoroute A5 entre Neuchâtel-Ouest et Neuchâtel-Serrières. 6 accidents se sont produits dans le secteur depuis le début de l'année. Pour les responsables, le phénomène a plusieurs causes, la météo, la configuration des lieux et l'attitude des automobilistes. Le revêtement est un facteur supplémentaire, même s'il a été changé il y a 4 ans. Responsable communication de l'Office fédéral des routes région Ouest, Olivier Floic, explique que ces travaux constituent une précaution.
C'est un enrobé qui répond à toutes les caractéristiques ou les contraintes de qualité qu'on lui fixe et par conséquent, c'est un enrobé qui remplit sa mission par rapport à la route. Je rappelle que c'est aussi un enrobé de type drainant pour permettre justement à l'eau de s'évacuer dans les meilleures conditions possibles. Donc je dirais que de notre point de vue, l'enrobé ne nécessite pas un remplacement urgent. En revanche, la conjonction d'accidents la semaine passée avec les conditions météorologiques qui n'étaient pas optimales, eh bien nous amène quand même à intervenir en disant si on doit faire quelque chose sur une portion qui est relativement courte, hein, je rappelle qu'on parle simplement de 400 mètres qui vont être remplacés, eh bien nous le faisons, évidemment, parce que la sécurité n'a pas de prix.
Après ces travaux, l'Office fédéral des routes va observer la situation sur ce tronçon ces prochains mois. Le cas échéant, d'autres mesures pourraient être prises, comme l'installation d'un radar ou une nouvelle limitation de vitesse. Yvan Bourgnon se retrouve face au vent judiciaire. Le navigateur d'origine chaudefonnière est sur le banc du tribunal judiciaire de Paris aujourd'hui. Il doit répondre de contrefaçon devant la justice. Leonard Reichen, ce procès arrive alors que le navigateur est au cœur d'une polémique sur la véracité des récits de ses aventures.
Oui, c'est un navigateur expérimenté, un loup de mer, hein, comme on dit dans le milieu. Il compte notamment à son palmarès la célèbre Transat Jacques Vabre en double en 1997, ce qui dénote le caractère et les qualités du marin. Mais ce portrait a donc été remis en doute, comme le révélait récemment le Figaro. Pierre Guyot, réalisateur de documentaires, notamment, le mène en justice pour une question de droit d'image et de contrefaçon. Un procès qui arrive alors que la polémique enfle autour de la véracité de son dernier voyage. En 2017, Yvan Bourgnon avait entrepris la traversée périlleuse de l'océan Arctique à bord d'un catamaran. Il parlait même d'un record potentiel, une actualité saluée d'ailleurs à l'époque par la presse internationale. Mais il aurait enjolivé certains points de son aventure et surtout de ses récits. En particulier, Bourgnon aurait bénéficié de remorquages et aurait passé plusieurs nuits à l'hôtel dans une ville canadienne. Certains remettent en doute aussi une confrontation face à un ours polaire dans les eaux glacées. Autant d'éléments qui remettent donc forcément en question le fond du documentaire du réalisateur le plaignant dans cette affaire. Le chaudefonnier s'est défendu dans une récente prise de position sur les réseaux sociaux. Ses récits, il les reconnaît et précise les avoir plusieurs fois détaillés dans ses conférences ou dans son livre. Il a reconnu par exemple dès son retour, avoir posé pied à terre au Canada, tout comme des remorquages, mais uniquement une fois le défi terminé et jamais sur une distance de 170 km comme évoqué par certains médias. Il réfute enfin aussi les accusations de storytelling à son encontre. Raconter, rendre le récit vivant, c'est la nature même du récit d'aventure, mais en aucun cas, cela ne mérite d'être accusé de mensonge ou de tricherie, a-t-il dit. La justice française devra donc trancher aujourd'hui.
Merci Léonard pour toutes ces précisions. Un Neuchâtelois de 29 ans devait être sanctionné pour ne pas avoir cherché du travail avant son inscription au chômage. Une sanction levée ce matin par le tribunal fédéral qui a constaté que la décision de remboursement de l'autorité lui a été communiquée trop tardivement. Le prévenu conservera donc ses indemnités. 34 millions de francs, c'est la somme que veut économiser le gouvernement jurassien d'ici 2026. Il a transmis au Parlement un plan équilibre contenant 85 mesures afin d'atteindre une nouvelle stabilité financière. Elles ont été regroupées en 4 axes: ressources humaines, fiscalité et recettes, aide sociale et individuelle et prestations. Par ailleurs, le canton du Jura annonce un budget déficitaire à hauteur de 5,9 millions de francs pour 2023. Le développement fulgurant de l'espace numérique, de l'Internet, des réseaux sociaux et du Big Data provoque un flux gigantesque de données et d'informations sur les utilisateurs. Comment se protéger de l'utilisation abusive des données personnelles? Par un nouveau droit constitutionnel, répond le conseiller national vaudois Samuel Bendéan. Il vient de déposer une initiative parlementaire qui demande de compléter l'article 10 de la Constitution fédérale en ajoutant au droit à la liberté personnelle et à l'intégrité physique et psychique un droit à l'intégrité numérique. Sa démarche est soutenue par des élus de tous les partis, mais le droit à l'intégrité numérique n'est-il pas de fait acquis? Samuel Bendéan.
Justement, le problème, c'est que l'intégrité numérique n'est pas incluse. D'ailleurs, certains cantons ont déjà entrepris de le mettre, hein, comme Genève, par exemple, et puis le Valais dans ses discussions actuelles. L'intégrité numérique, c'est nouveau parce que c'est le droit au contrôle et à l'information sur ses propres données. Et ça, c'est des choses qui sont plutôt récentes dans l'histoire de l'humanité. Cette possibilité qu'ont, par exemple, des très grandes entreprises ou des autres acteurs d'avoir énormément d'informations sur vous. Donc, c'est simplement un problème nouveau qui nécessite des droits nouveaux. C'est une évidence dans la tête de beaucoup de gens que finalement, ce qui nous concerne doit nous appartenir. Dans beaucoup de situations, on n'a pas accès aux données qui nous concernent. Et puis ça, c'est vraiment un problème, effectivement. Si la Constitution garantit ce droit pour les êtres humains, ça permettra ensuite de faire valoir ce droit de plusieurs façons. D'abord, ça forcera les entreprises qui gèrent des données d'avoir des pratiques qui nous permettent ça. Ils seront obligés de mettre à disposition les données si les gens les demandent. Et d'autre part, si ces droits sont violés, ça permettra à des citoyennes et des citoyens de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Ça incite tous les acteurs qui sont concernés dans le domaine d'avoir de bonnes pratiques en matière de gestion des données.
Des propos recueillis par Serge Jubin en parallèle à l'initiative parlementaire de Samuel Bendéan. Un groupe issu de la société civile intitulé Souveraineté numérique étudie le lancement d'une initiative populaire. Dans tous les cas, le peuple aura le dernier mot puisqu'il est demandé de modifier la Constitution fédérale. Face à la hausse des cas de coronavirus, les autorités élargissent leurs recommandations de vaccination de rappel. Toute personne de plus de 16 ans pourra tendre une nouvelle fois l'épaule dès lundi prochain. Les cas déclarés d'infection connaissent une nette augmentation, pointe aujourd'hui l'Office fédéral de la santé publique dans un communiqué. Les jeunes Suisses ont commis plus de délits et en ont été plus souvent victimes. C'est ce que montre une étude menée par la Haute École de Travail Social de Fribourg et la Haute École de Travail Social de Zurich. Plus de 11 000 jeunes ont été interrogés. Ils sont plus nombreux à avoir commis des délits au cours de leur vie que lors de la dernière enquête qui a eu lieu il y a 8 ans. Et ce, pour tous les délits analysés, à l'exception des graffitis. Selon l'étude, 29% des jeunes ont déjà commis un vol à l'étalage au cours de leur vie. Les brigandages rares mais plus graves ont également doublé par rapport à 2013. L'hôtellerie suisse se porte mieux depuis la levée de l'intégralité des restrictions Covid en avril. La croissance a retrouvé une stabilité en décomptant 4,5 millions de nuitées en août, soit une hausse de 7,6%. Cela représente une augmentation de 317 000 unités par rapport au mois d'août de l'année dernière. Et à l'étranger, une crèche thaïlandaise a été victime d'une attaque meurtrière aujourd'hui. Muni d'un fusil et d'un couteau, l'assaillant a tué 32 personnes, dont au moins 23 enfants âgés entre 2 et 3 ans, selon un nouveau bilan de la police de la province de Nongbu à Lompou. Ancien policier âgé de 34 ans, l'homme a pris la fuite en voiture et a percuté plusieurs piétons. Il a ensuite tué sa femme et son enfant avant de mettre fin à ses jours.
RTN 12h24. Sport.
Ils sont désormais 4 clubs neuchâtelois en deuxième ligue de hockey sur glace et le HC Neuchâtel Young Sprinters, néo-promu, compte bien faire revivre son glorieux passé. Depuis sa promotion, le club s'est séparé du nom de Young Sprinters Blue Star, utilisé jusqu'ici en troisième ligue, pour adopter le nom, l'ancien logo ainsi que les couleurs de son aîné disparu en 2009. Un retour aux sources qui n'est pas anodin selon le président du club, Ismaël Genzolen. Il ajoute que cette promotion est un sacré défi, mais le club aborde le championnat avec un peu d'ambition, Ismaël Genzolen.
Alors effectivement, une montée en deuxième ligue, c'est beaucoup d'efforts, c'est du temps, c'est un peu de logistique, c'est de l'investissement de la part de joueurs, d'un staff technique, d'un comité. On a voulu monter en deuxième ligue parce que on pensait pertinent d'avoir une offre complète aux patineurs du littoral entre la première, la deuxième et la troisième ligue au travers de 3 clubs différents.
Le fait que Young Sprinter revienne dans une ligue où c'est beaucoup plus visible, ça doit quand même évoquer passablement de choses et passablement de souvenirs.
Alors ça évoque beaucoup de souvenirs quand on voit les anciens, les plus anciens qui viennent dans la patinoire, tout le monde a un peu les yeux qui brillent, hein, de revoir ses joueurs, de revoir notre maillot, de revoir nos couleurs. Et puis, on se réjouit de faire briller en fait ce club maintenant en deuxième ligue, avec les ambitions qui sont les nôtres d'un club qui vient d'arriver dans une ligue qui effectivement est un peu plus difficile. Et on se réjouit de défendre nos couleurs pour cette saison.
Ambition, ça veut dire quoi? C'est surtout éviter la culbute?
Alors, au-delà d'éviter la culbute, on a des ambitions, je dirais, qui ne sont pas juste pour une saison, mais qui sont plutôt fixées à quelques saisons. Et pour quelques saisons, on a effectivement envie de jouer les premières places de deuxième ligue.
Des propos recueillis par Yann Esler. Le début de la saison a été toutefois un peu laborieux pour les Neuchâtelois, avec deux défaites, un revers 3-1 face aux voisins du HC Star Chaux-de-Fonds et une remise à l'ordre 11-2 face aux Valaisans de Rarogne. Le prochain match sera face à Franche-Montagne ce dimanche à 17h15 aux patinoires du Littoral. Des patinoires, on passe au Vélodrome avec Valère Thiébaud qui participera au championnat du monde sur piste à Paris. Le Vaudrusien a été retenu pour disputer la compétition qui se tient la semaine prochaine à Saint-Quentin en Yvelines. La sélection de Swiss Cycling dévoilée aujourd'hui comporte 5 hommes et 4 femmes. Il y a un mois, Valère Thiébaud et la Suisse ont pris un décevant 5e rang en poursuite lors des championnats d'Europe multisports de Munich. Et puis la Suisse fait son retour dans le top 15 du classement FIFA dont elle était sortie en juin. Au terme d'une dernière fenêtre internationale réussie en Ligue des Nations de football avec 2 victoires face à l'Espagne et la République tchèque, la Nati dépasse les États-Unis pour s'emparer de la 15e place. Le Brésil trône toujours en tête du classement devant la Belgique et l'Argentine.